Pastel FM. Pastel FM. Pastel FM.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue.
Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue aux saisons de Pastel FM 99.4, 20h13. Donc bienvenue dans notre émission, émission donc réalisée par l'association Rencontre et Dialogue. Nous accueillons ce soir Taleb Chouref, donc maintenant qui est un invité donc régulier chez nous. On passe le salam. Salam alaikum Taleb. Voilà. Donc là, on va entamer un nouveau thème ce soir. Donc qui va nous emmener vers plusieurs émissions. Tu nous préciseras un petit peu. Mm-hmm. Donc, je te laisse présenter le thème. Si j'ai bien,
Exactement.
Donc, okay. Définir un petit peu donc en français à quoi ça correspond exactement et sur quoi on travaillera, sur quoi on ira, Inch'Allah. Mm-hmm.
Alors, bismillah, wa salat ala rasulillah. La tasqiyat an-nafs, donc la purification de l'âme, est le terme qu'on utilise pour parler du cheminement spirituel, pour parler donc de l'évolution intérieure à partir d'un état d'ignorance, à partir d'un état de laisser-aller intérieur vers un état de connaissance et de discipline spirituelle. Alors, le mot tazkiya donc vient du verbe arabe zakka, qui veut dire donc purifier, et on trouve dans le Coran un certain nombre de versets qui contiennent donc ce verbe et des mots de cette racine. Et l'importance donc du tazkiyat nafs est soulignée dans de nombreux versets. Mais avant même d'aborder ces versets, je pense qu'il est important de voir un hadith qui va nous permettre de rentrer tout de suite dans l'importance de tazkiyat an-nafs, de cette purification donc intérieure, et qu'on puisse mieux en comprendre la portée. Et ce hadith, il est très célèbre, il a été commenté par de très nombreux commentateurs à travers les siècles. C'est celui qui nous est rapporté par Abu Huraira, le célèbre compagnon, radiallahu anhu, dans lequel donc le prophète dit « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ». On peut rendre donc ce hadith en français par les termes suivants « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse du caractère ». Le hadith est cité par l'imam Malik, il est sahih dans sa chaîne. Alors, cette parole, elle est vraiment fondatrice de l'importance du tazkiyat an-nafs. Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse du caractère, innama, donc le terme en arabe que on rend en traduction par ne que, ou qu'on peut rendre aussi par seulement, a le sens vraiment d'une insistance pour dire que c'est pour cette raison et seulement pour celle-là. Alors, évidemment, cette parole a été très forte, elle a été méditée par les compagnons, par les tabirines et par des siècles donc de ulama. Et ils ont été amenés à réfléchir à la chose suivante. Comment est-il possible que le prophète définisse sa mission par le fait de parfaire la noblesse du caractère, de, si l'on préfère, donc de purifier le caractère, alors qu'on sait que par ailleurs il est venu pour beaucoup d'autres choses. Il est venu pour instaurer le monothéisme par rapport à au polythéisme. Il est venu pour rétablir la justice dans une société qui est tout à fait injuste. Il est venu pour faire en sorte que la justice puisse être rendus aux plus faibles ou déshérités, etc.
Clore la prophétie, clore les...
Et puis surtout, évidemment, voilà, clore le cycle de la prophétie. Tout cela, évidemment, fait partie de sa mission. Mais ici, dans cette parole-là, en tout cas, il a voulu restreindre sa mission et la résumer en une seule dimension, qui est la dimension éthique et qui est la dimension spirituelle. Et alors, si il a pu donc résumer sa mission ainsi, c'est parce que finalement, tout son enseignement concourt à cela. Tous les conseils, toutes les recommandations, toutes les injonctions qu'il a transmises concourent à cet objectif, faire passer donc de cet état chaotique intérieur à un état donc de discipline et d'éducation spirituelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut résumer l'enseignement prophétique par cet aspect? Eh bien parce que sans cette pierre de touche, sans cet axe fondamental, tout le reste de la religion n'aurait même pas de sens et ne serait même pas possible. Sans la l'acquisition donc des vertus, la religion n'est que façade, n'est que paraître. Elle reste extérieure, elle reste un ensemble de pratiques que l'on accomplit à l'extérieur sans qu'il y ait rien d'accompli à l'intérieur. C'est pour cela qu'il a pu résumer finalement tout son enseignement par là. Et la grande difficulté, c'est justement de prendre la mesure et prendre la conscience, de l'ampleur du travail qu'il y a à accomplir pour passer de cet état chaotique intérieur à l'état de discipline spirituelle. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le nefs, puisque on parle de qu'est-ce qu'est le nefs. Comment définir l'âme au sens de la nefs? Alors, nefs, contrairement au mot français âme, a un sens plus restrictif, à savoir qu'il désigne en général les mauvais penchants intérieurs. Il désigne.
On a coutume de dire l'âme bestiale.
Alors, c'est ça. Par exemple, ça pourrait être une partie de l'âme. Disons que c'est tout ce qui est lié à l'égocentrisme et à l'individualisme. Alors, le côté bestial, l'agressivité, par exemple, en fait partie. Mais il y a d'autres manifestations de l'individualisme ou de l'égocentrisme qui constituent l'âme, comme la jalousie, par exemple, comme la colère, comme l'avarice, etc. Toutes ces manifestations donc intérieures sont considérées comme des émanations de ce qu'on appelle nefs. Alors, le meilleur terme en français, ce serait l'ego. L'ego. Mais il se trouve que on a l'habitude de traduire teskétennes par purification de l'âme, alors on va garder âme, mais enfin, le meilleur terme est évidemment ego. Et d'ailleurs, ce mot ego a été repris dans égocentrisme, dans égoïsme, etc., etc. Mmh. Voilà. Alors, cette âme, qu'est-ce que nous en dit le Coran? Alors, dans la Sourate Ash-Shams, on a un verset qui est très clair et en même temps très profond sur la nature de l'âme. Et ce verset nous dit وَنَفْسِنْ وَمَسَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Par l'âme et celui qui l'a bien modelé, c'est-à-dire Dieu, il lui a inspiré sa part de perversité, sa part de piété. Certes, a atteint la grande réussite celui qui la purifie, et certes est voué à la perte celui qui la corrompt, celui qui la pervertit. Alors, oui.
Non, juste quand tu dis, s'il y a une part de, tu disais que par rapport à l'âme, c'était une, les mauvais penchants entre guillemets. Et là, apparemment, dans le verset, une partie de l'âme est bonne en fin de compte.
Oui, tout à fait. Exactement.
Elle se définit aussi comme nefs.
Exactement. Alors, quand on emploie nefs sans d'autres déterminations, c'est le mauvais côté. Maintenant, le Coran parle de trois niveaux de nefs. Il parle de nefs al-ammara bissou. Donc ça, c'est tous les mauvais côtés, les penchants. Nefs al-lawwama. on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, l'âme blâmante, celle qui, donc c'est le degré intérieur où l'âme prend conscience de ses manquements et où elle essaye de se réformer. Et puis ensuite, l'âme qui est apaisée. Voilà, l'âme apaisée, c'est donc l'âme qui a été purifiée, et c'est le degré suprême, on pourrait dire, dans la purification de l'âme. Mais évidemment, quand on parle seulement que du mot nes, on perd les intentions. Alors ici, effectivement, le verset nous dit donc que dans l'âme, pris au sens global et général, eh bien il y a une part de perversité et une part de piété. Et ça, c'est vrai de tout homme, c'est vrai de chaque homme. Il y a une part en chaque homme, une part d'ombre, si l'on veut, une part donc ténébreuse, qui peut s'exprimer dans telle ou telle condition, si les conditions favorisent cela. Et inversement, on peut ne pas prendre conscience de cette part quand les conditions ne sont pas réunies. Ça ne veut pas dire qu'on ne la possède pas. Pour prendre un exemple très simple et en même temps assez extrême, il y a eu un très beau documentaire qui s'appelle L'ennemi intime, hein, sur par exemple sur la guerre en Algérie, sur la torture, et les gens qui ont témoigné, ceux qui ont pratiqué la torture, étaient traumatisés par la prise de conscience de ce qu'ils ont pu commettre comme acte. Et ils sont les premiers à s'interroger, comment est-il possible que moi, personne respectable, comment ai-je pu commettre des actes de barbarie aussi ignobles? Comment est-ce possible qu'un être humain, que je croyais normal, c'est-à-dire moi-même, puisse être capable d'une telle barbarie? Eh bien, c'est une nef. La seule différence, c'est que ceux qui, dans cette armée qui a pratiqué la torture, eh bien, étaient dans les conditions qui ont permis que la zone d'ombre s'exprime. Et ceux qui restent, qui sont restés ici bien gentiment dans leur vie réglée, métro, boulot, dodo, eh bien n'ont pas vu cette part qui est en eux. Mais ceux qui ont torturé en Algérie ne sont pas pires que les autres. Ce sont des êtres humains.
Oui, c'est le contexte qui a fait que cette âme s'est réveillée entre eux.
Exactement. Et s'est révélée, s'est manifestée à l'extérieur. Voilà, c'est ça surtout. Alors, bon, j'ai pris cet exemple-là, on peut prendre, malheureusement, l'actualité est remplie d'actes de barbarie et d'atrocité. Et effectivement, l'homme en est capable.
Et le danger, c'est de croire qu'on est à l'abri.
Exactement.
De ça.
Et tous ceux qui voient de l'extérieur ces actes-là se disent, mais comment ces
hommes. C'est pas humain.
Exactement, c'est pas humain. Et malheureusement, c'est humain, trop humain.
C'est trop humain,
exactement. C'est malheureusement trop humain. Et c'est le message de ce verset. À savoir que toute âme possède sa part de perversité. Mmh. Voilà. Sauf, évidemment, ceux qui suivent un chemin spirituel. Ceux qui, à l'intérieur de la religion, suivent un chemin spirituel de purification. À ce moment-là, effectivement, eux sont en chemin, sont en voie pour perdre cette part-là. Alors après, on en perd plus ou moins. Alors dans un premier temps, on en parlait tout à l'heure, nafsel lawama, l'âme qui se blâme, c'est un contrôle.
D'accord.
Et puis nafsel mutma, une âme apaisée,
voilà,
elle ne possède plus ces traits-là. Quelqu'un qui a réalisé l'âme apaisée, même s'il était en situation extrême, ou de conflit par exemple, il n'irait jamais jusqu'à la barbarie. Mmh. Voilà, il préférerait se laisser mourir plutôt que d'agir comme ça. Mais celui qui n'a pas ça, et bon. Donc voilà. Alors ce verset utilise le terme fujour pour parler de la perversité. Alors, le mot fujour en arabe vient de la même racine que fajr, par exemple. Fajr, qui est l'aube, tout simplement. Hein. Alors, quelle relation il peut y avoir entre le fajr et puis le fujour? Et puis, quelle relation il peut y avoir aussi entre le fujour et puis le verbe fajjara, qu'on retrouve dans le Coran pour dire que les fleuves débordent, ou que les mers débordent? Et bien justement, l'image du fleuve qui déborde nous indique de quel genre de perversité il s'agit. En fait, pourquoi il y a une relation entre de racines simplement, hein, entre al-fajr et puis le verbe fajara et al-fujur? C'est parce qu'en fait, le fujur, c'est le fait de ne pas rester dans la norme voulue par Allah. c'est le fait de ne pas rester dans ce qui constitue notre nature réelle. C'est le fait de déborder et de sortir du chemin qui est en principe tracé donc pour l'homme. Et donc à chaque fois que l'on s'éloigne de notre nature intérieure, eh bien, on risque de tomber dans le fujour, on risque de tomber dans la perversité. Alors, ça veut donc dire une chose, ça veut dire que s'il est vrai que chacun d'entre nous a une part de perversité et une part de piété, il faut voir que ces deux parts ne sont pas égales et que ces deux parts n'ont pas le même ancrage en nous. Ce qui est le plus profond en nous, c'est le bien, c'est la fitra. Et la perversité, c'est une déviation du bien qui est en nous. Alors ça, c'est très important, parce que notre vraie nature, notre nature la plus profonde, celle qui est notre roh, notre esprit, hein, il faut bien faire la distinction entre nefs, qui est l'âme, et puis roh, qui est l'esprit, notre nature la plus profonde, c'est le bien. C'est ça, al-fitra. Et au-dessus de ça, ou à la périphérie, vient l'étouffer cette perversité. Et donc il s'agit d'enlever cette couche superficielle pour retrouver le noyau qui est en nous, ce noyau de fitra, et ce noyau donc qui est spirituel. Et ça c'est vrai, donc en chaque homme, en chaque être humain.
C'est la foi originelle en fin de compte.
C'est exactement la foi originelle. Alors quand on parle du manque de foi ou du rejet de la foi, on parle de kufr. Le terme utilisé par le Coran, c'est le kufr. Que veut dire kufr? Veut dire caché. El kuffar, par exemple, ça peut être les infidèles, dans certains endroits,
ou ceux qui nient.
Mais dans d'autres versets, ce sont les agriculteurs. El kuffar. Et des versets qui parlent des kuffars pour citer des agriculteurs. Alors, quel est le lien entre kuffar agriculteur et kuffar ceux qui nient? Eh bien, l'agriculteur, il cache la graine dans la terre et il la recouvre pour qu'elle puisse pousser. C'est dans ce sens-là où il est appelé kuffar. Ben, ils ont appelé kuffar au pluriel, d'accord? Et celui qui nie la foi ou qui rejette la foi, il cache sa foi au plus profond de lui-même et il la recouvre avec le divertissement, avec les distractions, les plaisirs mondains, etc., etc. Alors c'est très étonnant que parfois le Coran parle de kuffar pour les agriculteurs ou les paysans. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre une chose, c'est que cette foi réside au plus profond de chacun d'entre nous. Voilà. Quelles que soient nos origines, quel que soit notre parcours, quel que soit le fait que nous soyons entrés dans telle ou telle religion, bien même que nous prétendions avoir aucune religion, la foi est présente. Elle est au fond. Et si on a compris cela, on a compris pourquoi on parle de tazkiyat an-nafs. Pourquoi purifier l'âme? Eh bien, pour retrouver sa nature réelle, sa nature originelle, pour retrouver donc sa fitra. Alors, il y a évidemment des degrés dans cette conscience. Certaines personnes ont conscience que quand ils sont agressifs, quand ils sont jaloux, quand ils se montrent avares, ils ont conscience que c'est pas vraiment eux. C'est une réaction qui est en eux sans être eux-mêmes. Voilà. Mais d'autres personnes, non. Ils vont s'identifier totalement à cette avarice, à cette agressivité, et ils vont faire corps avec elle, ils vont faire un avec elle. Alors eux, évidemment...
Mon caractère, c'est comme ça, c'est...
Exactement. Alors pour eux, évidemment, le test qui est né, c'est beaucoup plus difficile. Alors que quand on a conscience que tel ou tel trait de caractère négatif est présent en moi sans être moi-même, eh bien on a déjà un certain recul. On a déjà une certaine marge de manœuvre. On peut plus ou moins commencer déjà à changer les choses en nous-mêmes. On peut déjà commencer à prendre du recul par rapport à ça. Alors, tout ce que je viens de dire nous permet de comprendre que si le chemin de foi ne nous transforme pas, ne nous change pas, ne nous permet pas de devenir meilleur, alors notre pratique n'a pas vraiment de sens. C'est une pratique mécanique peut-être, c'est une pratique habituelle, c'est un ensemble donc de routines qu'on a mis en route. On va faire 5 prières par jour par exemple, et puis on va prier, on va jeûner un mois par an, le mois de Ramadan. Mais s'il n'y a pas de changement,
Alors, la pratique n'a pas été bonne.
C'est qu'elle n'a pas été profonde.
Réfléchie.
Exactement. Oui. Voilà. Et c'est que la perspective du Tesketness, alors, elle a été complètement oubliée, complètement passée à côté. Et quand on revient au hadith que j'ai cité au début, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse du caractère, alors on voit que tout ce que l'on fait doit concourir et doit aider à cela. C'est aussi le sens de la dua du prophète, mais qui disait « Oh mon Dieu, fais que mon jour soit meilleur que la veille, et fais que mon lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. » Pour montrer qu'on doit être dans un chemin d'évolution intérieure. Mmh. Il n'est pas normal qu'on soit toujours à traîner les mêmes difficultés intérieures, toujours à traîner les mêmes obstacles intérieurs au fil des mois et au fil des années. Ça veut dire qu'il y a une certaine clé qu'on n'a pas utilisée. On n'a pas encore entré la clé dans la serrure pour la tourner.
Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à la foi. C'est vrai qu'on a voilà. Moi, personnellement, j'ai l'image, le souvenir de savoir que par exemple, la foi des anges était constante, la foi des prophètes va en augmentant, ouais. Et la foi des hommes, en fin de compte, elle était un petit peu, chaotique, elle augmentait. Est-ce que, quand tu expliques qu'il y a normalement dans notre cheminement spirituel ou dans notre progression spirituelle, on doit pas descendre normalement?
C'est une chose différente. Hein. Le fait de l'intensité de la foi, ou la ferveur dans la foi, est une chose. Elle le khawi, c'est une chose. Mmh. Et puis, les défauts de l'âme, c'est autre chose. C'est autre chose. Le fait que la ferveur et la force de la foi, l'intensité de la foi peut varier, ça c'est effectivement humain. Parce que l'homme est un être imparfait, donc il n'est pas toujours au plus haut degré de ce qu'il pourrait être. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais là on est dans l'intensité du ressenti. Par exemple, il y a des moments où le recueillement dans la prière va être beaucoup plus fort, et puis à d'autres moments, un peu moins fort. De la même façon, la lecture du Coran va pouvoir parfois nous nourrir spirituellement beaucoup plus qu'à d'autres moments, en fonction de notre réceptivité, en fonction de notre ouverture intérieure. Ça varie.
Donc c'est notre réceptivité, elle varie. Est-ce qu'elle dépend est-ce qu'elle est en corrélation avec la purification du cœur? Cette réceptivité.
Oui,
c'est dans ce sens-là que je voulais.
Oui, tout à fait. Alors oui et non. Alors oui, parce que quand on vit dans les défauts, le cœur est complètement fermé. Mmh. Le cœur est complètement fermé. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand on s'est laissé aller à la colère. Mmh. On sent bien que quelque chose s'est crispé en nous. Le cœur est comme crispé. Hein. Voilà. Alors donc effectivement, le fait du Tesketness rend le cœur plus réceptif. Mais le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit chaque matin je me réveille avec comme un nuage sur le cœur jusqu'à ce que je dise 100 fois Astaghfirullah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il vit sur terre, et le fait de vivre sur terre, évidemment, ça fait que la proximité avec Dieu, elle n'est pas toujours aussi intense, et il faut donc toujours revenir se remettre dans le bain donc de la foi pour pouvoir ressentir cette foi intérieure. Donc ça c'est tout à fait normal et humain. Donc d'un côté effectivement le Tesketness va permettre que la foi devienne forte, mais de l'autre côté on reste humain. On reste humain avec le fait donc que des variations seront toujours possibles. Mais le fait qu'il y ait une variation ne veut pas dire une fermeture du cœur, et c'est ça qui est important. Le défaut, lui, ferme le cœur, tandis que notre humanité ne fait que varier. Elle fait varier l'intensité de la foi. Voilà. Alors, on va citer un second hadith qui va mettre aussi en lumière le premier que j'ai cité. Il est rapporté par Ibn Amr. Et ce hadith dit « Inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa ». Certes, ceux que je préfère parmi vous sont ceux qui ont le plus noble caractère. Donc ici, il s'adresse à qui ? À ses compagnons, à ceux qui étaient autour de lui, à ceux qui étaient donc ses proches. Et il leur dit donc que ceux que lui préfère, les hommes que le prophète préfère, sont ceux qui ont le plus beau caractère. J'ai traduit Ahsanukum akhlaqa par plus noble caractère. Ahsan, c'est aussi la beauté. C'est la beauté du caractère. Il faut prendre conscience donc que la qualité, comme la générosité, comme la patience, comme la reconnaissance, toutes ces qualités sont des beautés intérieures. Et inversement, l'avarice, la précipitation, la colère sont des sortes de laideur intérieure. Et c'est pour ça que l'arabe utilise le mot husn al-khuluq, la beauté du caractère, et puis su al-khuluq, la laideur du caractère. Alors pourquoi est-ce que y a un lien avec la, pourquoi on parle de beauté intérieure? Eh bien parce que la qualité, on va prendre la générosité par exemple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une qualité? La qualité, c'est le reflet en l'homme d'un attribut divin. Pourquoi est-ce que l'homme peut et doit être généreux? Bien parce que Dieu lui-même est le généreux. Pourquoi est-ce que l'homme peut et doit être patient? Parce que Dieu lui-même est le patient, sabour. Donc en fait, les qualités qui doivent rayonner en nous, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont un petit reflet, évidemment, à échelle humaine, un reflet, disons, des attributs divins, des qualités divines. Et c'est en ce sens-là, en fait, qu'on peut comprendre un verset qui est très énigmatique dans le Coran, où Dieu dit aux anges, quand j'aurai insufflé en lui de mon esprit, c'est-à-dire en Adam de mon esprit, alors tombez prosterné. Min ruhi, dit Dieu. C'est vraiment énigmatique, parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui a été insufflé en Adam. Alors bien sûr, c'est une créature, hein, il faut rester clair sur ça, mais une créature qui a une parcelle de lumière qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que les qualités, ce ne sont pas des inventions humaines, c'est pas nous qui décrétons que ben, tiens, c'est quand même mieux d'être généreux que d'être avare, ben, tiens, c'est quand même mieux d'être patient que d'être précipité. Non, c'est pas ça, c'est pas une convention, c'est pas un choix humain, c'est le reflet de quelque chose qui préexiste à nous. S'il est méritoire d'être patient, si la patience est tellement récompensée, est tellement mise en avant dans le Coran, eh bien c'est parce qu'elle nous rend conforme à ce que Dieu est. Vous voyez ? Et en sortant des qualités, ou en inversant les qualités, en vivant le contraire donc des qualités, eh bien comment on pourrait être proche de Dieu si on est l'inverse de ce qu'il est ? Il faut donc essayer d'être conforme à ce qu'il est. D'ailleurs, il y a un hadith très important du prophète qui dit « Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba ». Certes, Dieu est bon, ou bien pur, hein, tayyib peut se traduire par bon ou par pur, et il n'accepte que ce qui est bon ou pur.
Il y a le même verset ou la même hadith par rapport à la beauté aussi.
Exactement. Et pour la beauté, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certes, Dieu est beau, il aime la beauté. Alors la beauté, évidemment, ici, est à comprendre au sens spirituel, hein, de la beauté intérieure, de cette beauté des qualités. Dieu possède toutes les qualités, toutes les perfections, et il souhaite les voir dans ses créatures. Il souhaite voir un reflet dans ses créatures. Alors, on voit que les Tesketnes, donc, nous emmènent loin, nous emmènent jusque dans la connaissance de Dieu. Le tesketnes et l'acquisition des vertus ou des qualités commencent effectivement dans le relationnel, parce que être patient, être généreux, évidemment ça commence dans le relationnel, mais ça dépasse de loin le domaine social et relationnel, puisque ça va donc dans ce que la spiritualité a de plus profond, c'est-à-dire les attributs divins, ce que nous appelons les 99 noms de Dieu, hein, les attributs divins. Alors seuls peuvent comprendre le sens d'un attribut divin ceux qui en ont réalisé quelque chose. L'imam al-Ghazali répète souvent ça. On ne peut pas comprendre un attribut de Dieu si on n'a rien réalisé de cet attribut-là. Comment celui qui n'a aucune patience pourrait comprendre que Dieu est As-Sabr, le patient? Comment celui qui n'a aucune générosité pourrait comprendre que Dieu est le généreux? Etc. etc. Donc, l'acquisition des vertus, on voit par là que c'est aussi une voie de proximité avec Allah, une voie de proximité avec celui qui est le vrai détenteur des vertus, le vrai détenteur des qualités. Nous avons des vertus par emprunt, par reflet. Et d'ailleurs, notre générosité sera toujours imparfaite, sera toujours limitée. Notre patience, elle sera toujours imparfaite aussi, elle sera limitée. Mais elle n'en est pas moins le reflet de quelque chose qui, lui, est parfait et qui, lui, est infini.
Donc, en fait, avant de continuer, faire juste une petite pause pour un peu digérer tout ça et bien surtout méditer sur ce qu'on vient d'exprimer, sur le comportement, surtout surtout les qualités, les attributs divins. Donc, se poser cette question, comment à un moment donné on peut dire vouloir être proche de Dieu et essayer de se rapprocher de ses qualités, inchallah. Donc on fait une petite pause et on se retrouve d'ici 5 minutes. Je sais pas si Mehdi nous a calé quelque chose, donc c'est bon, je sais qu'il c'est quelqu'un de consciencieux. Donc voilà, nous arrangeons ça avec Mehdi. C'est parti, donc on se retrouve dans 5 minutes. Merci.
De retour saison de Passer les FM 99.4, 9h-10, 20h49, ça passe très 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 vite. Donc on accueille ce soir donc Taïeb Chouinef, qui a commencé aujourd'hui le sujet de Tesketenef, qui va nous emmener sur plusieurs émissions sur cette purification de l'âme. Première partie, donc on a vu la première la présentation des termes de la Tesquia, de Nefs, etc. Là on va plus entamer comment concrètement, en fin de compte, au quotidien, chaque musulman puisse faire ce travail-là de purification. Comment, à travers des histoires prophétiques, comment c'est manifesté, etc. Donc je rappelle juste le numéro de téléphone 03 20 13 59 00. N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions sur ce sujet-là. Bien sûr, donc on insiste, c'est important. C'est sur ce sujet-là. Pour enrichir le débat ou d'intervenir sur ce que vous faites, vous, éventuellement, sur dans votre quotidien, au jour le jour, pour parfaire ces qualités. Donc, concrètement, le mode d'emploi.
Alors, justement, effectivement, on a vu donc certains points importants au niveau théorique, on va dire, du Tesketenef, quelques clés importantes. Maintenant, effectivement, le Tesketenef, cette purification donc intérieure, n'a de sens que si elle est vécue au quotidien, au jour le jour, par un travail intérieur. Alors, comment est-ce que ça commence? Alors, ça commence très différemment pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous va prendre conscience de ce qui ne va pas en lui. Et quand je dis prendre conscience, je ne dis pas que le voisin doit lui dire, tu sais, tu as tel et tel défaut qui ne vont pas. Parce que ça, la personne peut accepter ou ne pas accepter, mais ça n'a rien à voir avec une vraie prise de conscience. Si moi je dis à mon voisin, voilà, j'ai remarqué que tu as un comportement orgueilleux, c'est pas bien, tu ne devrais pas, bon. Si je dis ça, qu'est-ce que j'apporte réellement à la personne? Bon, si elle le refuse, bon bah tant pis, c'est encore pire qu'avant, j'empire la situation, je mets de l'huile sur le feu, comme l'on dit. Et si elle l'accepte, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Puisqu'en fait, elle ne le voit pas par elle-même, elle ne se rend pas compte elle-même. Si elle ne se rend pas compte de son orgueil, même si elle veut bien me croire et elle veut bien accepter ma critique, elle n'aura pas de marge de manœuvre pour pouvoir changer. Par contre, ce qui nous donne vraiment la marge de manœuvre pour changer, c'est quand on voit soi-même, en nous-mêmes, ce qui ne va pas. Ce serait, par exemple, dans l'exemple que moi je viens de prendre, que la personne se voit être orgueilleuse au moment où elle parle devant tout le monde, qu'elle arrive à sentir que, ah oui, là, j'ai parlé pour me montrer. J'ai parlé pour pour paraître. Alors, à ce moment-là, un vrai changement est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le Tesketenef commence, il faut être en situation qui nous permette de voir clair. Si vous voulez voir un paysage, eh bien il ne faut pas vous mettre tout en bas. Si vous voulez voir toute l'étendue d'un paysage, il faut vous surélever un peu, et la situation dans la, à laquelle vous allez donc vous trouver va vous permettre de voir beaucoup mieux que quand vous étiez en bas dans la vallée. Spirituellement, c'est la même chose. Si on veut voir comment nous sommes à l'intérieur, il faut prendre du recul. Un exemple, quelqu'un qui parle tout le temps, qui a besoin de parler tout le temps, qui a besoin de montrer ce qu'il sait, qui a besoin de convaincre, qui a besoin d'étaler son savoir, etc., et qui ne se tait jamais, comment pourra-t-il se rendre compte des motifs qui le poussent à parler? Pour qu'il puisse s'en rendre compte, il faut qu'il essaye de se taire. Il faut qu'il essaye de réprimer cette envie de parler. Qu'il fasse l'effort de se taire. Et au moment où il fait l'effort de se taire, eh bien, il va être en mesure de se rendre compte. Ah oui, effectivement. Là, je me rends compte que quand je prends la parole, mon intention n'est pas bonne, mon intention n'est pas désintéressée. Elle n'est pas seulement pour défendre la vérité de manière entièrement honnête et objective, mais elle est pour me mettre moi-même en avant. Alors, ça veut dire que c'est le recul par rapport à toute chose qui nous permet de voir plus clair. Et c'est ce qu'on appelle « mukhalafat al-nafs », aller à l'encontre de l'ego. Quand l'ego veut briller en public, eh bien, il faut apprendre à savoir se retirer de temps en temps. Quand on est porté à parler à tort et à travers, eh bien, il faut apprendre le silence. Et de la même façon, c'est exactement le message du Siyam, c'est le message du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne, en fait? C'est une privation de boissons, de nourriture, de relations sexuelles durant la journée, pour prendre conscience de l'emprise des besoins corporels en nous, pour voir que notre esprit, il est bien souvent l'esclave du corps. Et on ne se rend pas compte si on n'entre pas donc dans cette discipline du jeûne, si on n'a pas le recul que nous donne le jeûne. Voilà. Alors,
pour revenir au jeûne, c'est vrai que on dit souvent, on apprécie, on a oublié la valeur des choses.
Exactement.
La valeur des choses.
Exactement.
Le fait de boire un verre d'eau. C'est vrai que souvent le repas, on dit c'est une soupe à un morceau de pain, et beaucoup disent, c'est vrai que on a retrouvé le goût. Pourtant, si aujourd'hui on vous propose une soupe à un morceau de pain à midi, comme ça.
Exactement,
on n'apprécie pas autant.
Eh bien non. Alors, ça veut donc dire que c'est ce recul qui est vraiment une grande aide intérieurement.
Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite intervenir, poser une question. Oui. Oui, allô.
Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Salam alaikum.
Alaikum salam, on vous écoute.
Je vais intervenir pour deux raisons. Premièrement, pour vous remercier tous de ce savoir que vous partagez avec les autres.
C'est gentil.
Et j'espère vous partager un petit peu ce que je sais. Et wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et pour vous couper, sinon on dit semaine ou le miel.
Oui.
Vous couper. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Hijra? Parce qu'on est tous des immigrés. Je crois qu'on vient de fêter la fête de l'Hijra. Mais il est passé sous silence, et grâce à Pastel, comme vous êtes là, vous êtes, ça sent dans votre voix que vous êtes un homme, sincèrement, je le dis sans, et pour qu'on on rend le Mohamed, si vous pouvez nous éclairer,
oui, tout à fait, on peut en parler un peu, bien sûr.
Ça nous rappelle, parce qu'on a tous quitté Zarna, et je crois que...
on va essayer de l'aborder sous l'angle de la spiritualité.
Tout à fait,
bien sûr.
Voilà.
On va essayer dans
Et je vous souhaite un bon courage.
Shukran.
Tous.
Alors effectivement, bon, c'est une parenthèse intéressante parce que l'hijra, donc l'exil intérieur, doit être vécu aussi intérieurement. Bon, l'hijra, c'est donc l'exil qu'a vécu le prophète et les compagnons de la Mecque à Médine, mais c'est aussi l'hijra. C'est aussi l'exil ou le recul par rapport à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Hein. Et effectivement, finalement, c'est une digression qui n'est pas vraiment une, puisque ça, on reste toujours dans le même sujet, à savoir que je disais que c'est le recul par rapport aux choses qui nous permet de donc de prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Alors, la hijra, C'est un recul, évidemment, qui a été forcé. Les compagnons et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été obligés de quitter leur lieu de vie à la Mecque. Et ça a été une souffrance pour eux, parce que non seulement c'était la ville de leur enfance, là où ils sont nés, mais bien souvent, ils y ont laissé tout ce qu'ils possédaient. Et puis parfois, ils y ont laissé aussi le reste de leur famille, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, etc. Et devoir commencer donc une nouvelle vie, souvent même une nouvelle activité professionnelle, parce qu'ils ont tout perdu en partant. Et donc, il y a eu vraiment cet arrachement intérieur. Mais cet arrachement leur a permis de vivre ce qu'on appelle Zohad, l'ascèse, le détachement. Le détachement et le renoncement donc aux choses éphémères. Alors là, ils ont été obligés, évidemment, de renoncer à ces choses. Et il faut voir que la plupart d'entre eux étaient tellement pauvres, quand ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient plus rien, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé aux Ansar, donc aux habitants de Médine, de partager avec eux ce qu'ils possédaient. Et il a demandé à ce que chaque Ansar prenne pour frère un Muhajir, donc un émigré donc de la Mecque, et qu'il devienne son frère, et qu'il partage tout avec lui comme on partage avec son frère. Et alors là où spirituellement ça a été une grande aide pour eux, je disais que ça leur a permis de vivre le Zohad, l'ascèse. Alors l'ascèse, c'est parfois mal compris ou mal interprété, le fait qu'il faudrait ne rien posséder, ou bien le fait qu'il faudrait être mendiant pour pouvoir être zahid. Non, pas nécessairement. Le zohad, le détachement, c'est le fait de ne pas se laisser, de ne pas laisser le cœur être pris par l'amour des choses matérielles. Que le cœur, en fait, ne soit pas l'esclave des choses matérielles. C'est ça le vrai zohad. Alors, du coup, on peut être zahid tout en possédant beaucoup de choses, tout en ayant une certaine richesse. Mais à ce moment-là, celui qui est zahid, il va être capable de gérer les biens qu'il a sans que son cœur en devienne l'esclave. Et il y a un très beau hadith du prophète sur le Zohad, hein, que l'on peut citer. Il est aussi rapporté par Ibn Amr. Zohad fi dunya yurihu al-qalb wal-badan wal-raghbatu fiha tukfiru al-hamm wal-hazan wal-batalatu tuqassi al-qalb. Rahu Suyuti Hadith Hassan. Donc ce hadith rapporté par Ibn Arm nous dit: le détachement vis-à-vis du monde repose le cœur et le corps, alors que le désir matériel génère le souci et la tristesse, et l'oisiveté durcit le cœur. Alors il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith, hein. Mais d'abord, Zohid fi dunya yurihu al-qalb, le détachement du monde repose le cœur, alors que l'attachement au monde fatigue le cœur et génère des soucis et de la tristesse, nous dit le professeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, puisqu'on est en train de parler du Tazkiyat an-Nafs et qu'on est en train de parler aussi donc de les hijras qu'ont vécu les Muhajirin, les compagnons donc de la Mecque, ça veut dire que ses compagnons, en partant, ils ont vécu cet arrachement qui ensuite s'est transformé en une légèreté spirituelle. Ils se sont retrouvés légers. Yurih al-qalb, nous dit le prophète.
Le paradoxe, c'est énorme, en fait. Voilà, c'est le fait de n'avoir plus rien, ça allège aussi le cœur.
Ça a allégé le cœur, parce que finalement, qu'est-ce qu'il leur restait? Eh bien, Dieu, leur foi. Voilà. Et c'est pour cela que ça a été aussi un bien pour eux, un très grand bien spirituel. C'était une difficulté évidemment humaine et relationnelle, mais c'était un très grand bien spirituellement. Alors, pour revenir au Tazkiyat an-Nafs, on voit qu'effectivement, si on arrive à prendre un recul par rapport aux choses que l'on fait, eh bien on arrive à avoir une maîtrise sur elle. Je vais vous donner un autre exemple clair. Si vous êtes avec des gens qui sont orgueilleux, et vous avez tendance obligatoirement à le devenir aussi. Mais le problème, c'est que quand on n'est qu'avec des gens orgueilleux, on ne se rend pas compte de son orgueil. On a l'impression que l'on est normal, puisque tout le monde l'est. Pour pouvoir se rendre compte de son orgueil, eh bien il faudrait que la situation fasse contraste. Il faut fréquenter des gens humbles. Dans un groupe des gens humbles, celui qui est orgueilleux, eh bien, il fait tâche tout de suite.
Il faut se sentir...
Et voilà, il se sent différent, il se sent en trop. Et effectivement, sa présence, eh bien, elle a du mal à se fondre avec les autres. Et c'est en ce sens où le prophète a dit, sur la semaine, que la bonne compagnie... donc la bonne compagnie est comparable au vendeur de musc. Lorsque tu vas le visiter, tu repars de chez lui avec la bonne odeur, même si tu n'as pas acheté de musc. Alors cette image, elle est très belle, parce que elle nous permet d'abord de comprendre que la bonne compagnie est très importante, parce qu'on ressort de cette compagnie avec quelque chose en nous. On repart changé. On n'a plus la même odeur. C'est-à-dire qu'on n'a plus le même état intérieur. Voilà. Et le hadith continue en disant, même si tu n'achètes pas de musc, tu repars au moins avec la bonne odeur. C'est une très belle image aussi qui nous permet de comprendre que même si on n'atteint pas le même degré que les gens que l'on fréquente, on repart quand même avec quelque chose qui est très important. Parce que le but, c'est pas forcément d'atteindre le même degré que les gens que l'on fréquente. Quand on suit l'enseignement d'un savant, il n'est pas nécessaire, il est même malheureusement impossible que tout le monde devienne aussi savant que lui. Mais il n'empêche que dans sa compagnie, on ressort moins ignorant. Voilà. Alors, l'exemple de la compagnie nous permet de comprendre que sans cette situation de bonne compagnie, eh bien, je ne peux pas me rendre compte de ce qui ne va pas en moi-même.
Juste, je t'interromps. Oui. Il y a quelqu'un qui va peut-être intervenir. Donc, je rappelle, 03 73 59 00. N'hésitez pas à intervenir sur donc sujet de ce soir, Tasket M9. Oui, allô ?
Oui, allô, salam alaykoum.
Alaykoum salam, wa rahmatoullah.
Oui, en fait, là, comme on est dans la partie de l'émission où on aborde, en fait, en quelque sorte, les remèdes, donc, du défaut du nef, si, donc, j'ai un exemple à vous exposer. Si on a une, par exemple, s'il y a une personne qui est, par exemple, aveuglée par, par la jalousie ou par autre chose, comment s'en avexer, comme on disait tout à l'heure, lui faire comprendre qu'en fait, elle possède ses défauts? Parce que c'est assez difficile, vous comprenez?
Ah oui, tout à fait.
Sans la vexer, sans vraiment pour... sans rendre compte de soi-même, c'est dur, mais de montrer à la personne, c'est encore plus, ça l'a encore plus.
Oui, tout à fait. Je disais justement tout à l'heure que montrer ou bien dire, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et le fait, en tout cas, de le dire comme ça de but en blanc, c'est en général pas un bien. Ça ne fait pas avancer les choses. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est toujours répondre au mauvais comportement par le bon comportement. Alors, ça ne veut pas dire que forcément vous allez changer la personne, mais ça veut dire que au moins, d'abord vous, vous vous préservez en agissant toujours de la bonne manière, et puis en même temps, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic, c'est-à-dire que le fait de rester dans le bon comportement face à quelqu'un qui ne l'a pas, ça va générer un déclic. Et ce qui est important aussi, c'est que cette personne est embourbée dans la jalousie, il serait important aussi qu'elle puisse fréquenter des gens qui n'ont pas justement ce trait de caractère, qu'elle puisse avoir dans son entourage des gens qui puissent, sans lui dire, lui montrer le bon comportement. Par exemple, qu'elle puisse voir dans l'action des gens qui se montrent sans jalousie, par exemple.
Mais si cette personne, elle comprend pas.
L'idée, je pense, c'est dans la patience aussi, c'est dans le alors, dans du long terme peut-être.
Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses, hein, et personne ne l'a. Par contre, je crois que si vous avez le comportement et que si en plus vous pouvez aider à ce que cette personne rencontre de temps en temps des gens qui lui montrent le bon comportement, par exemple, qui lui montrent que face à une personne qui a des choses qui nous plaisent, eh bien, on n'est pas jaloux, au contraire. On est content et on félicite la personne pour le bien qu'elle a, pour ce qu'elle possède, etc. Je crois que c'est surtout cela. Avec une dernière chose, il ne faut jamais oublier que votre intention intérieure, qui peut être aidé par les doua aussi. Votre intention de, d'aider la personne, rien que ça déjà, votre niya, rien que ça déjà, c'est une grande aide. Et les doua que vous allez faire aussi dans ce sens seront une grande aide aussi. Je crois qu'une des meilleures attitudes qu'on peut avoir quand on veut aider quelqu'un, c'est de lui souhaiter le bien, hein, par la pensée, par les doua aussi. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup pour votre aide.
Merci.
Merci. Jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est pas nous, on a toujours tendance à, enfin, on a envie de changer. Enfin, on pense. L'idée, c'est surtout que ce changement, il faut qu'on se rende compte qu'il doit se faire dans la durée.
Tout à fait.
Le fait d'être patient, il ne s'agit pas d'être patient un jour, deux jours, c'est d'être patient deux, trois jours. Le jeûne, c'est un peu pareil. Je veux dire, c'est aussi. Je trouve que c'est l'idée du cheminement, de la difficulté. Enfin, c'est.
Alors, la grande difficulté, c'est de comprendre une chose, c'est que quand je suis, si je suis jaloux, par exemple, le but, c'est pas simplement de me réprimer, c'est pas simplement de d'étouffer en moi cette jalousie. Ça, c'est évidemment, on va dire, ça c'est la réaction d'urgence qu'il faut avoir. Hein, c'est voilà, c'est la première réaction, c'est de ne pas donner libre cours, mais c'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Si on se réprime à chaque fois, un jour ou l'autre, on va exploser. Celui qui est colérique et qui réprime sa colère, qui étouffe sa colère à l'intérieur, il va finir par exploser un jour. Alors évidemment, la première étape, c'est de ne pas donner libre cours. Et la seconde étape, c'est de réfléchir et de méditer. Prenons par exemple le cas de la colère. Dans la colère, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on n'accepte pas une situation. On n'accepte pas que la situation soit comme elle est. On veut qu'elle soit autrement. Je ne sais pas, on a tel enfant qui est maladroit, il fait souvent tomber des choses, et on se met en colère. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça m'est arrivé tout à l'heure.
Ça veut dire qu'on n'accepte pas sa maladresse. On veut qu'elle disparaisse sur le champ.
Exactement.
Et ça, c'est très mauvais. D'abord parce que ça n'a jamais fait avancer les choses, et d'autre part parce qu'on est en opposition avec quelque chose qui fait partie du qadar. Si l'enfant est maladroit, il est maladroit, point à la ligne. Il faut d'abord commencer par accepter. Et quand on a accepté que c'est la situation, elle est comme cela. Il faut pas se battre contre des fantômes, contre des moulins. Il faut accepter la réalité. Ensuite, comment faire évoluer la réalité ? Alors là, c'est bien. Si on prend conscience de ça, la colère disparaît. Parce que on accepte la réalité telle qu'elle est. Cet enfant, il est maladroit, il casse des choses, et il cassera encore des choses pendant un certain temps. Voilà. Quand on a accepté, on va commencer à méditer, se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider à sortir de là ? Et c'est vrai, donc, pour toutes les situations dans lesquelles on peut être. Il faut d'abord commencer par l'accepter comme faisant partie du qadar. Parce que les choses arrivent par qadar aussi. La prédestination est un des éléments de foi. Donc, ça, c'est très important pour nous. Alors,
bon ou mauvais.
Exactement. Et c'est vrai pour la jalousie aussi. Quand on est jaloux, c'est parce qu'on voudrait que celui qui est en face de nous n'ait pas le bien qu'il a entre les mains. On voudrait qu'il ne l'ait plus, puis éventuellement, on voudrait que ce soit nous qui l'ayons à sa place.
L'explication du verset de dire l'envieux quand il envie.
Oui.
C'est-à-dire, l'envie, on l'a naturellement. C'est le fait, comment expliquer ça ? J'arrive pas à trouver les. Le défaut d'être jaloux, il est entre guillemets pas normal, mais c'est le fait de jalouser.
Il est humain. Malheureusement,
voilà,
il est humain.
Voilà, ah, d'accord. C'est le fait de jalouser qui est condamnable.
Non, c'est le fait parce qu'en islam, on distingue une saine jalousie qui est en fait une émulation. C'est une émulation. C'est le fait de, si je vois que quelqu'un a beaucoup de connaissances, il est très cultivé, il comprend bien les choses, alors j'ai envie moi aussi de suivre son exemple, et ça me donne une sorte de concurrence, mais une saine concurrence, donc une saine émulation. Mais j'ai pas envie qu'il le soit pas, ou bien je ne nie pas qu'il l'est, ou je vais pas faire de la médisance, voilà. Donc il faut distinguer la bonne émulation, ou la bonne concurrence, on pourrait dire, Al-Munafasa, de la jalousie qui est hasad. c'est deux choses différentes. Hein. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit que la jalousie est permise dans deux cas. Le cas de la personne riche qui dépense son bien, qui dépense ses richesses dans le bien, qui fait beaucoup de bien avec, et puis la personne qui a reçu une sagesse. Qui transmet cette sagesse aux gens. Il est permis de les envier de manière saine, c'est-à-dire de vouloir être comme ça aussi. Alors, mais pour revenir à ce que je disais, on sent des défauts, pas seulement en se réprimant, en s'empêchant, en se crispant intérieurement pour pas laisser la colère sortir, mais en réfléchissant, en méditant sur le fait que telle chose, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui l'ai décrété, elle est comme cela et je dois accepter. Et quand on a accepté, on essaye de voir sereinement, en toute sérénité, la meilleure attitude pour faire évoluer les choses. Alors, cette conscience du qadar, malheureusement, quand on l'oublie, eh bien, on tombe nécessairement dans les défauts.
Ce que tu es en train d'exprimer, c'est aussi toute la question d'éducation, comment éduquer les enfants, les relations humaines entre l'homme et son épouse, ou la dame et son mari.
Tout à fait.
C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on essaie de, faut pas nier, l'acte ou l'événement qui s'est déroulé.
Exactement. Parce que, beaucoup des conflits, beaucoup des problèmes, relationnels, beaucoup des situations inextricables dans lesquelles on peut se mettre viennent du fait qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. On voudrait décréter ouais. Comment doit être la réalité. On voudrait décréter que non, lui, c'est pas un savant, il est mauvais, lui, c'est pas quelqu'un de bien, lui, c'est quelqu'un de bien. On veut, en fait, être un petit dieu sur terre et décréter ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui va, ce qui va pas, et donner des titres, et distribuer donc des bons titres et des mauvais titres. Distribuer les bons points et les mauvais points. Et ça, c'est une attitude qui est à l'extrême opposé de la spiritualité. La spiritualité commence quand on se rend compte que c'est pas nous qui devons juger, c'est pas nous qui devons décréter les choses. Nous devons accepter. Et d'ailleurs, une chose est remarquable, c'est que quand on accepte une personne telle qu'elle est, eh bien, bien souvent, on arrive à la faire évoluer. Mais si on le premier contact avec elle, c'est une négation, eh bien, voilà, on part dans le conflit frontal. Et la situation devient encore pire. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que des aveugles ne peuvent pas conduire des aveugles. Voilà.
C'est vrai que dans l'exemple du prophète, c'est vrai qu'il n'a jamais, on parlait hors antenne du début de la prophétie, il n'a jamais été à l'encontre, sauf sur le politisme, mais l'idée, c'était toujours d'essayer de prendre le bon côté des choses. Enfin, il a toujours beaucoup de patienté, le prophète, je racontais justement ma patience. Et
voilà. Anas Ibn Malik, qui a été son serviteur pendant 10 ans, pendant des années, il a dit, jamais pour une chose que j'ai faite, il m'a dit pourquoi tu l'as faite, et jamais pour une chose que je n'ai pas faite, il m'a dit pourquoi ne l'as-tu pas fait. Autrement dit, il ne lui a fait aucun reproche pendant toutes ces années à son service. Et à son service, à l'époque, ça voulait dire être quasiment esclave. C'est-à-dire, voilà, le maître, il a le droit de vie ou de mort presque sur son esclave. Et jamais il lui a fait le moindre reproche. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait évoluer, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait changer. Il l'a éduqué, il l'a fait changer, mais pas par le reproche. Pas en commençant par le dire, par le faire de reproche, donc. En commençant d'abord par accepter son état.
Son état.
Il en est aujourd'hui, il en est là. Aujourd'hui, il en est là, il faut accepter ça. Maintenant, à partir de là, comment je peux le faire évoluer?
C'est vrai que ces questions-là, on est beaucoup au niveau de l'islam, enfin des musulmans, etc. Je crois que la difficulté déjà, je pense, elle est dans le fait que chaque musulman, chacun se trouve à la place. Enfin, on n'arrive pas à comprendre que chaque musulman, on le voit avec les émissions qu'on organise. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas le même niveau de connaissance suffisant, où ils sont arrivés à un chemin, leur chemin est arrivé à tel point. Moi, je pense que on doit pas être juge. La difficulté est là,
d'accepter
tel comportement, parce que malheureusement sa position, son cheminement spirituel, c'est pas encore accompli, c'est pas encore.
De toute façon, on reconnaît un arbre à ses fruits. De toute façon, donc quand on quand on participe à empirer une situation, il faut se remettre en cause. Il faut se dire, est-ce que mon soi-disant bon conseil était vraiment un bon conseil? C'est pas parce qu'on a cité un verset ou un hadith qu'on se cache derrière en disant, de toute façon, mon conseil était bon puisque le hadith est bon.
Ouais, si, c'est
non?
Bon.
Non. Non. C'est pas comme ça. La vérité, elle n'est pas comme ça. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Parlez aux gens avec ce qu'ils peuvent comprendre, car voudriez-vous qu'on traite de mensonge Dieu et son envoyé? C'est-à-dire que si on dit des choses qui dépassent trop la capacité d'entendre de la personne qui est en face de nous, eh bien on l'enfonce encore plus. Et c'est pas parce qu'on a dit une vérité qu'elle va être utile. La vérité est utile si elle est adaptée au niveau de compréhension de la personne qui est en face de nous. Alors, c'est pour cela que si on sort à travers, tout ce qu'on sait ou croit savoir, parce qu'en général, il y a beaucoup d'imaginaires dans nous, hein. Donc si on sort tout ce qu'on sait ou croit savoir, eh bien en général, on empire les situations, on les empire. Et la sagesse, c'est justement ce don que Dieu donne à quelqu'un qui fait que il améliore les situations, il ne les empire pas. Alors évidemment, on n'a pas de baguette magique pour faire en sorte que tout soit parfait, mais il faut au moins ne pas empirer. Et quand on fait rien, eh bien on n'empire pas la situation. Et quand on fait avec ignorance et en général souvent pour se montrer, eh bien on empire la situation. De toute façon, il ne peut pas y avoir de bien dans une action dont l'intention n'était pas bonne. Et désintéressé. Qu'est-ce que veut dire une bonne intention? Veut dire désintéressé. Veut dire que je n'ai pas d'intérêt dedans. Ce n'est pas pour un intérêt personnel que je le fais. C'est pour l'intérêt de la personne. Donc quand on est tourné vers l'intérêt de la personne et que réellement c'est ça qui nous motive, on trouve les mots pour lui parler. On trouve ce qu'il faut lui dire. On sait ce qu'il faut lui dire et les mots pour le dire viennent facilement et on voit qu'il y a un bien qui en sort.
Mais c'est un peu difficile. Est-ce qu'à un moment donné, quand on essaie de faire vraiment sur l'éducation, qu'on essaie d'avoir avec nos enfants, la relation qu'on a avec nous, est-ce qu'on peut dire à un moment donné que si les mots qu'on a essayé d'employer pour essayer de faire évoluer, enfin, ou tenter de faire évoluer la situation, n'ont pas réussi, est-ce qu'on dit bah, peut-être mon intention n'était pas bonne, peut-être que c'est moi qui me...
Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre.
Je pense que la patience et la rigueur et le.
Bien sûr. Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est que dans le domaine de la spiritualité, il faut éviter les tout blancs et les tout noirs. Notre intention, elle n'est pas toute noire, mais elle n'est pas toute blanche non plus. Non. Il y a une part qui est certainement un élan spirituel vers Dieu, mais il y a une part égocentrique. Sinon, nous serions des saints, des awliya Allah. Mais comme nous sommes donc de simples croyants, eh bien, il y a une part de notre intention qui n'est pas forcément bonne. Et le but, c'est précisément que cette part, on va dire négative, diminue toujours un peu plus. Et que notre intention, on la purifie toujours un peu plus. Bien sûr que un père qui éduque ses enfants, bien sûr qu'il veut le bien de ses enfants, bon, évidemment, mais est-ce qu'il ne veut pas un peu aussi montrer à un père, montrer à sa famille, montrer que ses enfants sont mieux?
Mais je pense que des fois les réactions de colère, c'est peut-être aussi l'image qu'on leur envoie, leur
exactement.
Enfant qui fait que la colère
s'exprime. Voilà. Exactement. Donc ça veut dire que, bien sûr qu'il y a une part qui est bonne dans la réaction du père dont on parle, mais il y a aussi une part qui n'est pas bonne et qui est le « qu'en dira-t-on ».
Exactement.
Voilà. Alors, il s'agit d'en prendre conscience et de diminuer le plus possible la part du « qu'en dira-t-on » pour éduquer son enfant réellement dans ce qu'il a besoin, réellement dans ce qui lui fait du bien, et non pas dans ce que moi j'imagine qui serait son bien. J'imagine que il faut qu'il soit ingénieur, et il faut que pour qui il faut qu'il soit ingénieur. Est-ce que c'est la mort pour lui?
C'est d'éduquer l'enfant en fonction de est-ce qu'on peut dire de parler de sa nature?
Oui.
Souvent les enfants un peu turbulents, voilà. Vous ne mettrez jamais un enfant un peu turbulent cloîtré entre deux murs. C'est...
Voilà. Il faut donc accompagner son enfant. Il faut l'accompagner. On accompagne son enfant, on lui transmet des valeurs, mais on ne le formate pas selon notre imaginaire. Oui, c'est le et ça nous ramène au Tesquet 9, hein, notre sujet principal, à savoir que parmi les défauts de l'âme, il y a l'amour de la domination. Dominer, c'est un des grands défauts de l'âme. Elle aime être dans cette attitude où elle va maîtriser le monde. Pour être encore une fois comme un petit dieu. Maîtriser par exemple la cellule familiale, ou bien maîtriser ses salariés, ou maîtriser ses, etc., etc. Donc il faut voir ça aussi, il faut voir que le conseil que l'on donne, il faut le plus possible le purifier de cette envie de dominer. Ce qui veut dire que, dans l'idéal, hein, c'est idéal, qu'est-ce que je veux dire, mais bon, dans l'idéal, il faut être détaché du fait que le conseil soit entendu ou pas entendu. On le donne parce qu'on pense et parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de mieux à dire, et puis les fruits, c'est pas entre nos mains. Ça, c'est l'attitude, entre guillemets, idéale, l'attitude donc du prophète, qui n'a pas cherché à, entre guillemets, à faire rentrer, par exemple, Anas dans un moule, en lui disant, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, et faire ci, et faire ça, et faire ça, et tu dois m'obéir comme ça, et quand je te demande une chose, il faut que tu le ramènes en temps et en heure, etc. Non. Non. Quand il lui demandait une chose, et que cette chose n'était pas faite en temps et en heure, eh bien, il lui montrait qu'il était en difficulté, il lui montrait que, ben, je suis en difficulté. Mais il ne disait pas, tu ne l'as pas ramené au moment où j'en avais besoin. Il lui montrait les conséquences. Et Anas contrôlait tout seul qu'il avait mis le prophète en difficulté. Et la prochaine fois, il ne recommençait pas.
Est-ce qu'on peut en mettre en lien aussi avec la relation qu'il avait avec son oncle avec
Abou Talib. C'est-à-dire
Le fait qu'il ben, ne l'a jamais reproché ou lui dire qu'il n'a pas de le rejoindre.
Non. Non, oui, il a montré.
Ça, c'est aussi un grand. Pourtant, c'est le prophète qui va dire oh, c'est mon nom que.
Tout à fait. Non, il a montré l'exemple, il lui a souvent parlé, ils ont eu des entretiens à deux, hein, où personne n'était présent, donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, dans les entretiens sur le message, sur la foi, etc. Mais jamais il y a eu Abou Talib ne s'est jamais senti jugé par exemple par le prophète.
C'est
un exemple vraiment formidable pour nous, surtout nous aujourd'hui qui souffrons beaucoup du fait que les jugements à droite, à gauche se font très facilement et celui qui a lu 3 ou 4 hadiths souvent se permet de donner des jugements.
On a une question pour revenir sur cet épisode là. Oui, allô?
Allô, salam alaikum.
Alaikum salam.
Voilà, j'aimerais juste intervenir par rapport à donc, tout ce qui a été dit. Donc en fait, finalement, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de parler de psychologie finalement. La manière de se regarder soi, d'aborder l'autre, etc.
Aujourd'hui, ce terme peut peut-être être utilisé, oui, mais c'est pas tout à fait ça parce que bon, la psychologie s'intéresse au comportement humain, oui. Mais pas aux causes profondes de la nature humaine. Hein.
D'accord.
Voilà. Et les causes profondes de la nature humaine, donc on en a parlé au début, hein, c'est que il y a en nous profondément cette fitra, cette nature originelle qui est bonne, et par au-dessus, eh bien, viennent des défauts qu'il faut effectivement purifier, oui, voilà.
Mais le fait que justement, donc finalement, on a tous plus ou moins des défauts, oui. On a tous une réalité de notre être qui est différente selon les vécus et selon l'éducation qu'on a reçue, selon les parcours qu'on a eus et les expériences qu'on a rencontrées.
Oui,
nous ne sommes pas, on est le résultat de toute une complexité de choses.
Voilà.
D'accord. Ce qui fait que bien aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas véritablement conscience, c'est pour ça qu'on ne les voit pas.
Tout
et
qu'il
faut justement un travail pour faire, remonter l'inconscient, je dirais, au niveau de la conscience, pour que ça puisse se voir, pour qu'il y ait un effet de miroir, en fait.
Voilà. Disons que, de toute façon, les événements qu'on est amené à vivre font effet miroir. Effectivement.
D'accord.
Voilà.
Mais, excusez-moi, juste une question, c'est parce que, consulter un psychologue dans des cas où ou la relation, peu importe dans quel cadre, mais où la relation est difficile, est-ce que justement ça pourrait pas amener à une prise de conscience?
Moi je crois que la prise de conscience, comme on l'a dit, elle arrive et elle est donnée quand on est sur le terrain, quand on essaie de prendre du recul par rapport à soi-même, comment on est intérieurement, mais dans l'action, sur le terrain. Et c'est l'action et les événements de la vie qui nous enseignent. Parce que les événements ne sont pas hasardeux, si vous voulez. Hein. Les situations sont suscitées selon une sagesse divine, vous voyez. Et cette sagesse nous aide à prendre conscience de certaines choses au fur et à mesure de notre parcours. Les événements que vous allez vivre maintenant, ils sont en rapport avec votre besoin du moment. Et dans 10 ans, vous allez vivre d'autres événements, vous allez faire d'autres rencontres, vous allez avoir d'autres découvertes qui sont liées à ce que vous aurez besoin à ce moment-là. Dans sa vie, en fait, Al-Ghazali incite beaucoup, dans sa vie, dans la vie d'un être humain, les événements, les gens, les situations sont là pour nous ouvrir les yeux. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux à la situation. Voilà. Et ça nous permet, je crois, vraiment de prendre conscience de ce qu'on doit changer en nous.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc là, on va procéder, on va une petite pause de 3-4 minutes. Donc on va pour continuer, pour finir sur cette deuxième partie, sur le comment. Voilà. Donc on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite, salam alaikum. Salam alaikum, de retour sur l'antenne de Passer les Femmes, 21h33. Donc on était en discussion sur le sujet, donc sur l'éducation notamment, et on va peut-être faire part un petit peu de l'échange qu'on a eu, c'est de dire à un moment donné, c'est vrai que la difficulté de vouloir absolument pour ses enfants notamment être qu'ils soient le reflet entre guillemets de ce qu'on souhaite qu'ils soient. Et tu donnes l'exemple de dire que nos enfants c'est un nana.
Exactement.
Et donc c'est Dieu qui nous a confié cette responsabilité de l'éducation.
Exactement. Et en quoi ça nous ramène au sujet du test technique 9, c'est que l'évolution intérieure, donc comme on l'a dit, hein, elle part donc avec tous ces défauts de l'âme qu'on a cités, pour aller toujours vers plus de liberté par rapport à ces défauts et aller dans le sens de laisser rayonner en nous les qualités. Le fait d'être parent, c'est une grande aide spirituelle. Et on s'en rend malheureusement trop rarement compte. Quand on a un enfant, quel qu'il soit, quel que soit l'état dans lequel il est, eh bien, cet enfant, d'abord, c'est pas notre propriété, c'est pas notre chose, il ne nous appartient pas. C'est une amana que Dieu donne en responsabilité aux parents. Et les parents ont la charge et la responsabilité d'accompagner cet enfant du mieux possible. Mais évidemment, tout en gardant conscience que c'est pas leur chose à eux. Ils ne vont pas le mouler selon leur désir et selon leur imaginaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Dieu donne toujours les enfants dont nous avons besoin pour évoluer spirituellement. Et c'est un fait, c'est inévitable. La relation parent-enfant a des moments difficiles, elle a des moments de conflit, elle a des moments de... Mais les parents ont les enfants qu'ils doivent avoir pour évoluer. Et les enfants ont les parents qu'ils doivent avoir pour évoluer. Alors je sais que quand je dis ça, c'est parfois difficile à entendre, parce qu'on me dit, oui, mais il y a des parents comme ci, il y a des parents comme ça, il y a des parents qui sont des tortionnaires, il y a des parents qui frappent, il y a des parents qui font subir des sévices, etc. Oui, et inversement, il y a des enfants qui sont odieux avec leurs parents, etc. Mais si, évidemment, ça, la souffrance humaine existe, hein, je ne la nie pas, mais si on regarde les choses du point de vue spirituel, eh bien on se rend compte que finalement, cette souffrance, elle peut être transmuée en évolution spirituelle si on s'est donné du sens aux choses, si on s'est donné du sens aux événements. tout à l'heure, je disais que la mauvaise attitude, c'est de commencer par dire « j'ai pas envie que les choses soient comme ça, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai pas envie que mon voisin soit plus riche que moi, donc je suis jaloux, j'ai pas envie que mon enfant se comporte comme ça, donc je suis colérique, etc. » on parlait de ça. Il faut prendre conscience que l'enfant est une occasion de grandir intérieurement pour les parents. C'est évident que l'enfant va grandir et s'éduquer dans le foyer. Mais on oublie souvent que les parents doivent grandir et évoluer aussi. Comment ? Eh bien, l'enfant va permettre de se détacher de l'attachement au monde. Pourquoi ? Comment ? D'abord parce que au début, l'enfant est tout petit. Il est quasiment la chose des parents. Les parents font ce qu'ils veulent. Oui, mais après, il grandit. Et il prend son autonomie. Et puis, après l'adolescence, sa personnalité s'affirme. Et puis, ensuite, à l'âge adulte, il s'en va et il laisse ses parents. Eh bien, tout ce cheminement-là va faire grandir et mûrir et va détacher l'âme. Parce que je disais tout à l'heure qu'un des défauts de l'âme, c'est l'amour de la domination et la volonté de la maîtrise. Eh bien, le parent va devoir apprendre à lâcher prise, va devoir apprendre à se séparer de son enfant qui, de toute façon, va grandir et de toute façon va prendre son envol. Voyez. Alors, dans les sociétés traditionnelles, les choses étaient bien faites de manière à ce que, à chaque étape de la vie, il y ait des situations qui permettent d'accepter. L'enfant est né, l'enfant est adolescent, l'enfant est adulte, il se marie. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, les sociétés sont très chaotiques et on n'a plus les mêmes repères, on n'a plus le même tissu social et relationnel, etc. Ce qui fait que les parents ont bien du mal à comprendre quel est leur rôle de parent. Les enfants ont bien du mal à comprendre quelle est leur place d'enfant. Et finalement, ce rôle d'éducation indirecte que l'enfant permet sur le parent, eh bien, il n'existe presque plus aujourd'hui. Alors que par le passé, on voyait très souvent des gens arriver à 50, 60 ans en étant déjà détachés et déjà préparés même pour la mort même. Ils avaient éduqué leur enfant, les enfants étaient mariés, et puis voilà, ils s'étaient complètement accepté et complètement détaché, et puis les parents comprenaient que maintenant la priorité, elle est pour moi spirituelle, elle est de m'occuper donc de préparer le hajj par exemple, et puis de m'occuper.
On dit par exemple que c'est vrai que l'enfant au début c'est entre guillemets ton enfant, et dès qu'il a atteint l'âge de raison, ça devient ton frère en fin de compte.
Exactement. Voilà. Mmh. Et donc, en fait, traditionnellement, voilà, c'était ça qui était vécu. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair et ça génère évidemment des conflits parce que les parents, même quand l'enfant a 25-30 ans, essaient encore d'avoir une influence sur la vie de l'enfant. Ils s'oublient eux-mêmes, ils oublient leur propre vie eux-mêmes. Ils s'occupent beaucoup du mariage de leur enfant, beaucoup de la vie de couple de leur enfant, et oublient que quand on a 50, 60, 70 ans, la priorité spirituelle, elle est tout de même ailleurs quand même. Elle est dans le fait d'avoir accompli sa tâche et maintenant de se préparer pour l'au-delà.
Et c'est l'amour, en fin de compte, l'amour, il rend aveugle, donc c'est l'amour des enfants, et
exactement.
Il passe devant l'amour de Dieu et de son prophète.
Voilà. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que quand l'âme commence à être purifiée, eh bien, elle découvre une nouvelle façon d'aimer. Parce que la manière d'aimer de l'âme qui n'est pas purifiée, c'est une manière égocentrique et possessive. Voilà. L'âme qui n'est pas purifiée, elle ne sait pas aimer. Et quand elle dit qu'elle aime, c'est faux. Elle ne veut pas aimer, elle veut posséder.
C'est pas vrai.
Et ce n'est pas la même chose. Le vrai amour, il n'est pas possessif et étouffant. Le vrai amour, il est une rahma. C'est un don de rahma. Celui qui aime spirituellement, il a un rayonnement, son amour rayonne de miséricorde, de générosité et de don. Il ne cherche jamais à étouffer personne, ni ses enfants, ni ses amis, ni sa famille, ni ses parents. Il donne sans essayer de maîtriser les gens. Tandis que l'amour possessif, il est très étouffant. Et beaucoup de parents rencontrent des difficultés. Il y a quelques mois, on m'avait demandé de faire une intervention sur la relation parent-enfant dans le Pas-de-Calais. Et je leur expliquais que les parents qui ont l'impression qu'ils ont tout fait pour leur enfant, qu'ils ont tout donné pour leur enfant et qu'il n'y a rien en retour, il faut aussi s'interroger sur l'intention. Est-ce qu'ils ont tout fait pour leur enfant, vraiment?
Pourtant, je lui ai tout donné.
Et voilà.
Mais pas l'essentiel.
Et peut-être pas l'essentiel, voilà. Donc, le test 4009, on voit, là on a survolé beaucoup de sujets, mais on voit que finalement il est important dans tous les domaines de la vie, parce que l'âme qui n'est pas purifiée est un fardeau, un boulet qu'on traîne avec soi, et qui nous empêche de goûter à ce que la vie peut avoir de beau. Il est impossible d'être heureux sans purification de l'âme. C'est pas possible. On court après un mirage. Le bonheur, c'est ce que dans ce dont nous parle le prophète dans le dernier hadith que j'ai cité, en disant que Zod fit dunya yurih al-qalb, il repose le cœur. Le bonheur, c'est un apaisement intérieur. C'est quand on est apaisé, quand on est en paix intérieurement, et quand on a compris que finalement, de courir après telle ou telle chose, de courir après telle ou telle possession, ou de courir après tel ou tel statut, ou de courir après tel ou tel honneur, tout cela, en fait, nous fait passer à côté de notre vraie vocation. Et du coup, nous fait passer à côté des raisons pour lesquelles nous avons été créés. Parce que, il ne faut pas oublier non plus que le bonheur n'est possible que en fonction de ce pourquoi nous avons été créés. Ils n'ont pas été créés pour courir après telle ou telle chose. Ils n'ont pas été créés pour faire en sorte que notre enfant soit ingénieur ou bien médecin. Ce n'est pas le but ultime de la vie.
Le but ultime,
c'est non,
ça,
pas le but ultime de la vie.
Ça nous renvoie aussi à la question de la NIA qui est une des bases, à mon avis.
Exactement.
On va procéder d'avoir une petite pause très très courte pour malheureusement conclure sur cette première partie. Et donc on fait une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes, Madi. Ça va comme de retour saison de passer les femmes, 21h46, donc pour malheureusement donc la fin de cette première partie sur Tesquetenes. Donc on a vu donc en première partie l'aspect étymologique et les précisions sur les neufs, les différents niveaux de neufs, etc.
Tout à fait.
On va dire survolé plutôt
un survol sur les différents aspects, disons,
du comment.
Voilà.
Mais donc, je pense que dans les autres émissions, on pourra y revenir et je pense que ce sera nécessaire.
Bien sûr.
Donc, là, on va finir sur un passage que tu as sélectionné tiré de Yahya, ça.
C'est ça.
La réunification des sciences islamiques.
De la religion, tout à fait.
De l'imam Razali.
Voilà, exactement. Et donc, ce passage, justement, éclaircit, disons, l'importance de ce qu'on appelle Husn al-Khuluq, donc la noblesse de caractère. Et c'est un passage du troisième tome de l'Ihya. L'Ihya, en fait, est constitué de 4 volumes, de 10 livres chacun. Dans ces 40 livres qui constituent cette grande somme de l'Ihya, on peut dire que tous les aspects principaux de la religion sont évoqués, traités dans le détail, etc. Alors, le premier livre de ce troisième tome, donc, concerne le cœur et la purification de l'âme. Et Razali nous dit donc la chose suivante. La noblesse de caractère est un attribut du maître des envoyés, c'est-à-dire donc le prophète. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce que réalisent les véridiques, siddiqoun. Elle est sans conteste possible une partie importante de la religion. Elle est le fruit qu'obtiennent les hommes de piété, al-muttaqoun, par leur combat intérieur, al-mujahada, et les dévots, al-muta'abbidoun, par leurs exercices spirituels. La bassesse de caractère, à l'inverse, elle est un poison violent qui amène à une perte évidente et qui avilit l'homme et l'éloigne de la proximité du Seigneur des mondes. La bassesse de caractère emprisonne l'homme dans le filet des démons et constitue une porte ouverte vers le feu qui dévore les entrailles. C'est une expression donc coranique, ça.
Ainsi, connaître les moyens de guérir les maladies du cœur est une nécessité pour tous ceux qui y sont disposés, et plus grande encore que celle de connaître le moyen de guérir les maladies du corps, puisqu'aucun cœur n'est exempt de maladie. Dieu le Très-Haut a dit à son prophète, alors seul-même et bien-aimé, « Certes, tu es d'un caractère suréminent. » Et lorsque Aïcha fut interrogée par le prophète, elle répondit, « Son caractère était le Coran. » De son côté, le prophète a dit, « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. » Donc là, on retrouve des citations que j'ai citées, donc, que j'ai données tout à l'heure. Ce qui est important ici, dans ce passage, c'est que Razali dit donc que le fait de rechercher les moyens de guérir les maladies du cœur, c'est un devoir encore plus important que le fait de rechercher les moyens pour guérir les maladies corporelles. Parce que, évidemment, quand on n'est pas en bonne santé, on déploie des efforts immenses pour chercher le bon remède, et c'est évidemment compréhensible. Mais là où Razali s'insurge, c'est qu'il se dit qu'on ne remarque pas du tout le même empressement à guérir les maladies intérieures, les maladies de l'âme. Et là, il y a évidemment quelque chose qui n'est pas du tout à sa place, puisque ce corps, de toute façon, qu'il soit en bonne santé ou en mauvaise santé, de toute façon, on le laissera. Bien. Notre état intérieur, nous partons avec, et c'est lui qui détermine le genre de vie future que nous allons avoir. Mmh. Et donc, là où Razali s'insurge, c'est en disant, mais comment on peut prêter autant d'attention au corps, et si peu à l'âme, et si peu donc au cœur, à notre intériorité, à ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour cela que dans les l'Ihya, il développe sur des centaines de pages, plusieurs centaines de pages même, tout ce qui a trait au tafkat an-nafs. Et dans ce troisième donc volume, il a consacré un livre entier aux principales maladies. Vous avez par exemple un livre complet sur l'attachement au monde et le désir des choses matérielles. Vous avez un chapitre complet sur l'orgueil et la recherche de la célébrité. Vous avez un chapitre complet sur ce qu'on appelle le shahwat, donc les passions, voilà, etc. Donc il traite vraiment en détail tous ces aspects négatifs là de l'âme pour essayer de faire comprendre donc à ses lecteurs que pour que la religion ait réellement un sens et qu'elle devienne quelque chose d'authentiquement vécu, qu'elle ne soit pas une mécanique et une routine de pratique, eh bien il faut avoir cette perspective du khuluq, de la noblesse de caractère.
Et
la
vivre, noblesse c'est ça l'idée du Yahya, c'est de faire vivre les choses,
voilà,
pas qu'elles se meurent.
Exactement, tout à fait. Et donc conscience que refaire vivre les sciences de la religion, les faire sortir de l'état de sclérose dans lequel ils étaient tombés, parce que les sciences étaient devenues une spécialité de théologie, tout simplement. Donc on était spécialiste en théologie comme on pouvait être spécialiste en astronomie ou en médecine ou en mathématiques. Donc et lui, il s'assure en disant, mais non, ça n'est pas pareil, on ne peut pas être spécialiste de la théologie comme on est spécialiste des maths. Il faut une attitude intérieure tout à fait différente. On n'est pas du tout dans une matière scolaire, là. On est dans le domaine du spirituel.
La vie.
Et voilà, et le spirituel, c'est le vécu intérieur. Donc c'est ça qu'il essaye, en fait, donc dans cette troisième partie de l'Ihya, de montrer et de développer. Alors il dit, évidemment, je ne suis pas le premier à en avoir parlé, il n'est pas le premier à parler de noblesse de caractère, il dit, mais avant moi, on parlait des fruits du bon comportement, des fruits de la noblesse de caractère. Celui qui a le noble caractère, c'est celui qui va se comporter comme ça dans telle situation. Voilà. C'est plutôt comme ça que les prédécesseurs de Razali ont parlé. Et Razali dit, moi, je vais vous parler de la réalité de chaque qualité, la réalité de chaque défaut, de ce qu'il est en lui-même, pas de ce qu'il amène les gens à faire, vous voyez. Okay. Et ça, c'est effectivement assez nouveau. Certains on peut dire que Razali avait vraiment une connaissance de la psychologie humaine qui était extrêmement profonde, parce que ce qu'il a pu, les détails qu'il peut donner sur l'intérieur de l'homme, c'est vraiment incroyable. Alors effectivement, mais surtout ce que lui il veut, c'est qu'on comprenne que pour changer intérieurement, il faut se comprendre soi-même. Il faut comprendre comment les choses se passent à l'intérieur. Il faut savoir faire un état des lieux à l'intérieur. Si on ne sait pas faire un état des lieux à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut mettre de l'ordre? Quand on arrive dans une maison qui est complètement chaotique, il faut d'abord faire un état des lieux avant de pouvoir mettre de l'ordre. Et il nous dit que c'est pareil intérieurement. Intérieurement, il est nécessaire de faire ça, et c'est les outils que lui veut donner dans sa tihya. C'est pour ça que je dis souvent que cette œuvre, elle est vraiment d'une richesse, une profondeur incroyable, parce que toute une vie ne suffirait pas, même à une armée d'écrivains, pour écrire ce que lui il a écrit en très peu de temps. On se demande même comment il a fait, d'ailleurs.
Comment il a fait, c'est vrai que ce serait très intéressant de voir l'histoire de la réaction. Pour revenir à ce que tu dis, c'est aussi l'idée d'un moment de dire, c'est vrai que comme une maladie se traite avec un diagnostic chez le médecin, il y a un remède.
Exactement.
Enfin, les maladies de l'âme, les maladies du cœur.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a
un préalable,
un diagnostic qui doit être fait.
Exactement. Exactement. Et par exemple, un homme est venu voir le prophète, mais il s'est plaint à cet homme de la dureté de son cœur. Et il a dit, voilà, moi j'ai un cœur dur, je suis quelqu'un qui est insensible, et ça me dérange parce que je vois bien qu'au niveau religieux et spirituel, ça me gêne. Et il lui a dit, si tu veux que ton cœur s'adoucisse, prends soin des orphelins. Voilà. Donc simplement, il a dit ça.
C'est vraiment un remède.
Alors il va donner un remède pour lui, à savoir que, voilà, il va conseiller la générosité envers les orphelins. Donc envers les plus déshérités, finalement, puisque les orphelins dans la société musulmane sont ceux qui étaient vraiment le plus déshérités à tout niveau, au point de vue relationnel, familial, matériel, etc. Alors qu'est-ce qui est intéressant de voir là, c'est que l'homme vient lui dire, voilà, moi j'ai un cœur dur, et lui donne un conseil pratique, à savoir, oblige-toi à être généreux. Et prendre soin d'un orphelin, ou bien même de plusieurs orphelins, eh bien ça oblige à la générosité, ça oblige à sortir de soi-même, à s'occuper d'un autre que soi-même. Voilà. Donc,
dire en fin de compte, c'est pas du tout, c'est aussi, c'est presque d'aller, excusez-moi, si on a laissé la porte ouverte, on vous explique, quand on laisse la porte ouverte, on pense qu'on n'est pas en tête, malheureusement, on est en tête, mais c'est pas grave aussi.
Et j'ai perdu le fil. Nous parlions donc de. J'avais donné l'exemple de cet homme qui était venu voir le prophète en se
plaignant. Je disais, en fin de compte, c'est à un moment donné, c'est vrai que c'est faire un effort, c'est presque d'aller. Pas contre nature, mais c'est ça.
C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle mukhalafat an-nafs, aller à l'encontre du désir passionnel. Si
contre nature.
Ouais. Alors, précisément, ouais. Conformément à notre nature profonde.
Voilà, c'est ça, parce que c'est pas contre nature, parce que la nature, elle est bonne.
Elle est bonne.
C'est aller vers notre nature profonde.
Exactement.
Et là, on rencontre bien sûr la première partie.
D'accord. C'est tout à fait ça. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est que. Apparemment, et qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil? Il lui a dit, donc, va à l'encontre de ta spontanéité. Puisque tu n'as envie de t'occuper de personne, puisque tu ne donnes rien à personne, eh bien, tu vas t'obliger à le faire en t'occupant d'un orphelin. Voilà.
C'est ça le message à retenir, à mon avis. Barakallahu fik, en tout cas, Barakallahu. Donc, n'hésitez pas, donc, la 21h58. L'émission touche à sa fin, pardon, donc remercie beaucoup le frère. Donc on se reverra bientôt, Inch'Allah, donc
dans un mois,
j'ai pas le planning sous les yeux. Donc on approfondira encore cette question de TSKT9, Inch'Allah. D'accord. On vous souhaite en tout cas une bonne soirée, on vous dit donc à vendredi prochain, Inch'Allah, avec normalement Ahmed. Donc là on laisse la parole à Émile Fessine de la main, celui qui a intervenu. Ahmed, donc l'émission sa finale, donc l'émission. La culture des chants religieux, et on se retrouve une journée avant de le Assalamu alaykoum wa
rahmatullahi. La création prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue. La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue.